Europe 1.
Et demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Marie Dauzé.
Bonjour.
Il y a 15 jours, la garde des Sceaux, Nicole Belloulet, envisageait le rapatriement des djihadistes retenus au Kurdistan syrien. Je ne vois pas d'autres hypothèse, disait-elle, à Libération. On ne peut pas prendre le risque d'une dispersion dans la nature. Qu'est-ce qui se passe depuis ?
Depuis, il y a une espèce de rétropédalage, mais nous y sommes habitués, c'est-à-dire que Jean-Yves Le Drian a pris la main, répond à sa place d'ailleurs devant l'Assemblée nationale. Mais ce que dit Nicole Belloubet, c'est ce qu'elle a dit il y a un an, c'est ce qu'Édouard Philippe a dit il y a un an, en janvier 2019, en indiquant qu'il fallait absolument rapatrier tout le monde au risque de les voir se disperser. Donc, il y a une cohérence, il y a juste un courage politique qui manque.
Ouais. Oui, vous parlez du courage, vous rappelez le courage dans votre livre de François Mitterrand qui avait bravé l'opinion dominante sur la peine de mort à un mois du scrutin de 81 parce que les Français sont hostiles à ce rapatriement quand on les interroge par sondage. Mais c'est une question à la fois quoi, humanitaire et sécuritaire à vos yeux ?
Impératif humanitaire et sécuritaire. Humanitaire parce que des enfants sont en train de périr. Dans le seul camp d'Alol, 371 enfants sont décédés en 2019. C'est le Croissant Rouge kurde qui nous a donné ce chiffre la semaine dernière. Et sécuritaire parce que, évidemment, Daesh les attend. Les cellules dormantes de Daesh qui ne dorment absolument pas. Plusieurs centaines d'attentats revendiqués dans le nord-est syrien en 2019 aussi. Donc les attendent pour les récupérer. Ou alors, en les laissant là-bas, on prend le risque qu'ils deviennent une monnaie d'échange entre les mains de Bachar el-Assad. Donc de toute façon, et je cite Nicole Belloubet en janvier 2019, nous devons faire le choix qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement.
Ouais.
Sauf que la mise en œuvre de ce choix ne se fait pas parce qu'on a peur de l'opinion publique et qu'on n'est pas courageux politiquement.
Ça vaut à la fois pour les enfants et pour leurs parents. Il y a environ 300 enfants français, ces enfants entraîneraient leurs parents dans l'opération de rapatriement, à vos yeux ?
Mais de toute façon, on ne peut pas séparer ces enfants de leur mère. C'est absolument impossible. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui fait que ça n'est pas possible. Imaginez un enfant qui est rapatrié sans sa mère et qui va, tous les matins à l'école, en sachant sa mère en train de périr là où lui-même était en train de périr avec elle, c'est-à-dire sous une tente et dans la gadoue, avec absolument rien. Il sait qu'elle a faim, il sait qu'elle a froid, et il sait combien elle souffre puisqu'il a souffert avec elle. Comment voulez-vous que cet enfant d'abord supporte le pays dans lequel il est, et puis tout simplement parvienne à s'insérer ? Ça n'est pas possible. Et ensuite, je le répète, ces femmes ne sont judiciarisées qu'en France. Elles sont dans une zone où elles ne peuvent pas être jugées, où elles ne seront jamais jugées. L'Irak a bien expliqué à juste titre qu'il n'était pas une poubelle à djihadistes. En réponse à Jean-Yves Le Drian, qui s'est rué vers l'Irak au moment de l'offensive turque pour essayer de négocier.
Qui voulait que la justice irakienne prenne la main. Oui.
Exactement. Donc voilà, stop. Il n'y a pas d'autre solution. Ces rapatriements sont inéluctables et c'est effectivement un impératif sécuritaire et humanitaire.
Alors tout cela, Marie Dauzé, c'est une partie de votre livre « Les victoires de Daesh apparaître chez Plomb quand nos peurs fabriquent du terrorisme ». L'autre fabrique que vous dénoncez, c'est le système judiciaire qui, face au phénomène djihadiste, ne cherche plus à comprendre et se contente de sanctionner et d'incarcérer, y compris des individus que vous pensez récupérables. Vous citez des exemples de vos clients partis en Syrie, mais vite rentrés sans basculer dans l'action violente. Mais écrivez-vous, il est devenu impossible de faire figure de repenti dans un cabinet d'instruction antiterroriste. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que les magistrats ont peur de la taqiya. En fait,
c'est la dissimulation.
C'est ça. Les magistrats ont peur que celui qui dit « mais attendez, je suis parti 3 semaines et dès que je suis rentré, j'ai compris et j'ai voulu fuir. » Et d'ailleurs, je vous le prouve parce que pendant 3 années en France, avant même que vous sachiez que j'étais partie, je me suis parfaitement insérée, je distribuais des tracts dénonçant les attentats de Charlie Hebdo, et ça je parle de Rachid dans mon livre. Mais même cette preuve-là ne leur suffit pas. Les magistrats ont peur. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre.
Principe
Ils ont
de
peur
précaution.
De se tromper. Voilà, le principe de précaution. Sauf qu'on ne peut pas juger avec le principe de précaution ou le risque zéro en tête. Pourquoi ? Parce qu'à force, on va assimiler ces personnes qui ne sont pas des ennemis à des ennemis, et qu'on va leur assigner cette place de l'ennemi, et qu'ils finiront nécessairement par le devenir. Si vous dites judiciairement à quelqu'un « on ne prend pas de risque avec toi », et finalement, on te met à la place de tous ceux qui sont éminemment dangereux et dont on connaît la dangerosité, quel avenir a-t-il ?
En lui,
très sincèrement, la France le considère comme un ennemi, quelle autre joie ai-je de devenir autre chose qu'un ennemi.
Vous pensez que
c'est
le sentiment d'injustice nourrit forcément la colère et peut-être le terrorisme ? Ce n'est pas le cas du premier exemple que vous citez de votre client Rachid.
Non. Mais le sentiment d'injustice nourrit d'abord la défiance. la défiance envers l'institution. Et si on se défie d'une institution, si on a le sentiment, mais qui n'est pas un sentiment, qui est vraiment une authenticité, une vérité, parce que moi je la vis au quotidien, que la justice se trompe, qu'elle maltraite, alors même qu'au fond d'elle, elle sait très bien qu'il y a très peu de risques, eh bien on s'en défiera. Se défier de l'institution judiciaire, c'est se défier d'un pays. C'est se défier d'une institution tout court, et donc se défier d'un système. Et on sait très bien comment le radicalisme se naît, et notamment dans les prisons françaises. Il naît d'abord d'une rupture avec l'institution. Donc voilà, c'est d'abord le traitement judiciaire, quand il est outrancier, quand il n'est pas individualisé, qui peut nourrir une défiance, et donc effectivement du terrorisme dans le sens large du terme.
Et vous avez fait savoir ça? Vous avez essayé de le dire, vous avez essayé de parler
sûr.
À des...
Mais je le plaide, oui. Je le plaide régulièrement. Et je ne dis pas qu'aucun magistrat ne l'entend, certains l'entendent. Et peut-être, je le pense, en tout cas je l'espère, de plus en plus. Parce que vous savez, je ne suis pas la seule à le penser. Quelqu'un comme Marc Sejman, qui était ex-agent de la CIA, qui était expert psychiatre dans les années 2001-2005 aux États-Unis s'agissant des terroristes, explique que la seule façon de combattre efficacement le terrorisme, c'est justement l'équité totale en matière judiciaire. L'équité totale. Sinon, on fabrique de la défiance.
Vous avez un rôle et un métier pas facile, Marie Dauzé, en choisissant avec ses clients, avec cette cause. Au début de votre livre, vous expliquez n'avoir aucune sympathie pour ces individus. Vous n'avez eu aucun contact avec le monde musulman avant de devenir avocate. Vous avez grandi en Lorraine. Mais à la toute fin de votre livre, vous écrivez que l'adolescente que vous étiez aurait pu partir en Syrie en quelques semaines. Vraiment ?
J'ai écrit cela parce que je sais qu'au moment de l'adolescence, on est capable du pire. J'ai écrit cela parce que chaque personne a en soi une caricature de ces personnes qui sont parties. Et elle les imagine endoctrinées, terriblement dangereuses, sous l'emprise de Daesh. Mais ce n'est pas si simple. Il y a plein de mineurs qui sont partis à 15-16 ans. Pour une rupture amoureuse, parce qu'elles se sont enfermées en elles-mêmes, parce qu'elles ont été attirées par Daesh. Et ce qu'on oublie, c'est que Daesh est d'abord une secte. Et que oui, n'importe quel adolescent, à un moment donné, peut tomber sous l'emprise d'une secte. J'ai écrit cela parce que j'étais une gamine enflammée, qui supportait pas l'injustice, et qui était éminemment sensible, et donc influençable, à 14, 15, 16 ans. Et que je sais, je connais ce que je défends, et certains de leurs mots résonnent en moi, et je me dis, mais comme beaucoup de parents devraient se le dire, ça aurait pu aussi nous concerner, tous les uns après les autres. On n'est jamais à l'abri de cela. Donc on est en train de fabriquer des figures de l'ennemi pour essayer de les éloigner de nous. Mais c'est notre histoire. Ça nous est arrivé ici, dans des familles qui sont françaises, avec des enfants qui sont nés en France, qui ont été dans les écoles de la République et qui, à un moment donné, ont été embrigadés. Je n'aurais pas été à l'abri de cela. Je n'ai pas la prétention de croire que non, pas moi.
Les victoires de Daesh, quand nos peurs fabriquent du terrorisme chez Plon. Merci beaucoup Marie Dauzé d'être venue nous en parler.
Merci à vous.